Eh bien, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54. Et nous lisons ensemble Ésaïe 54 à partir du verset 7. En court instant, je t'avais abandonné. Mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Ce merveilleux texte est directement lié à l'histoire d'Israël. Dieu y réaffirme avec force sa volonté de faire perdurer son alliance avec son peuple. Et 2700 ans ont passé depuis qu'Ésaïe a écrit ces quelques lignes, et cette promesse n'a pas perdu de sa force. Elle reste pour nous toujours d'actualité. Et j'aimerais avec vous relire ce verset 10 pour voir ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. On parle souvent de montagnes dans la Bible. Et on pourrait se tromper quant à la teneur de ces montagnes-là. Quelles sont ces montagnes? Eh bien, ce ne sont pas les montagnes du psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes. » D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pas ces montagnes-ci, parce que ces montagnes-ci étaient remplies de brigands et terrorisaient le pèlerin qui marchait devant ces montagnes. Il voyait ces montagnes et il en avait peur parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait se passer dans ces montagnes s'il allait être dépouillé de ses biens, violenté, tué. Et le cri qu'il dit, c'est « Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où est-ce que me viendra le secours ?» Et puis, Dieu lui dit « Mais le secours vient de moi. N'ayez pas peur de traverser ces montagnes. » Ce ne sont pas non plus les montagnes que nous trouvons dans le Nouveau Testament qu'avec votre foi, vous déplacez aisément. Non. Ces montagnes sont, pour nous, aujourd'hui, des éléments qui sont solides dans notre vie, qui sont indéracinables, qui sont fermes, qui sont permanentes, qui sont aussi apaisantes pour nous. Et de ces montagnes, je peux y imaginer facilement ma famille, mon métier, mes métiers, ma santé, le lieu où j'habite, mes biens, mes finances, ma foi. Toutes ces choses qui stabilisent ma vie et qui font que ma vie a un certain paysage, différent du vôtre, mais c'est ma vie, avec mes montagnes, et vous avez les autres. Et on remarque dans notre vie que quand un élément s'écroule, quand une colline vient à chanceler, quand une montagne vient à s'ébranler, eh bien, les choses deviennent un petit peu difficiles pour nous. Et malgré le fait que nous sommes en souffrance, par un décès peut-être, par une perte de notre travail, par une maladie, ou que sais-je, eh bien, nos autres montagnes nous permettent de nous stabiliser et de pouvoir traverser ces moments de difficulté néanmoins avec sérénité. Si je perds mon travail, j'ai quand même un petit compte en banque assez coquet qui me permet de voir venir. Si je perds la santé, ma famille est là pour m'encourager, pour prendre soin de moi. Si un membre de ma famille vient à décéder ou à s'éloigner des sentiers de Dieu, eh bien ma foi en Jésus me permet de surmonter ma peine avec confiance et dans la paix. On le comprend bien, toucher à ces montagnes symbolise mes sécurités qui sont ébranlées. Ça me fait prendre conscience de la fragilité de ma vie. Ça me fait aussi prendre conscience de la grâce de Dieu sur ma vie. Et l'apôtre Paul avait raison quand il disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mais quand on est ébranlé, on se rend compte que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie facile. Loin s'en faut. C'est une vie où les poissons nagent à contre-courant. Et parfois il y a des luttes, parfois il y a des difficultés. Et parfois on se pose des questions. Notre foi et notre attachement à la parole de Dieu, notre fidélité à son égard, notre obéissance pleine et entière ne nous garantissent pas de suspendre notre humanité, d'oublier notre humanité, d'échapper aux vicissitudes de la vie ou à ses souffrances, comme à ses peines ou à ses joies. Nous restons humains, bien que nous sommes chrétiens. Notre foi n'est pas là pour nous permettre de surmonter ces réalités parce que Jésus est avec nous. Et si notre foi a disparu parce que c'est une de nos montagnes, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Si je commence à perdre pied dans les sentiers de Dieu, si je commence à mourir spirituellement, cette montagne imposante, ce cervin dans ma vie, cet Himalaya, cet Everest dans ma vie qui fait de moi quelqu'un qui est stable, si cette montagne chancelle, parce que ça arrive de perdre pied dans la foi, ça arrive de s'égarer loin des sentiers de Dieu. Ça existe de faire naufrage. Eh bien, je me rappelle ces paroles du psaume 23 qui disent « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est beau de savoir que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il reste cet ami qui prend soin de nous. Tous, nous avons expérimenté dans notre vie l'ébranlement d'une montagne. Des choses qui ont bouleversé notre vie. Peut-être que nous avons été passablement en difficulté lorsque deux montagnes se sont écroulées. Mais imaginez seulement que toutes nos montagnes s'écroulent en même temps. Imaginez que tout ce qui fait notre force, tout ce qui fait qui nous sommes, disparaisse au même moment, comme l'a vécu Job, qui a tout perdu en quelques moments. Toutes ces montagnes se sont effondrées, toutes ces collines se sont abaissées. Là, on se rend compte vraiment que le contrôle de notre vie nous échappe. Parce que néanmoins, quoi qu'on en dise, on aime garder un peu le contrôle de notre vie. Et lorsqu'une montagne s'effondre, ben ça va, on a des ressources. Mais quand toutes nos montagnes s'effondrent comme Job, eh bien, il ne nous reste plus rien. Plus rien sinon Dieu à qui se raccrocher comme une bouée de sauvetage au milieu de ma tempête. Ma crainte, c'est peut-être de le voir lui aussi me quitter, en disant « Ouf, il n'y a plus rien à faire avec lui. » Eh bien non, regardez le temps, parce qu'en tant qu'enseignant aussi donc, de l'école, ça m'arrive aussi de faire un petit peu de grammaire. Et puis je me suis arrêté à ce ton de ce verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient. J'ai été surpris de voir que c'était non pas le futur, mais le conditionnel. Quand les montagnes s'éloigneraient. C'est étrange parce que pour ma part, j'aurais mis le futur, vous voyez. Comme quoi, heureusement que ce n'est pas moi qui suis Esaïe. Mais le futur implique toujours que la réalité que l'on dit, que l'on proclame, va se passer, va se réaliser un jour, elle va nous rattraper. Quand je serai, futur, à la retraite. Quand les vacances seront là. On est en mois de novembre. Quand j'aurai reçu mon 13e salaire, eh bien, je ferai plein de choses. Quand Jésus reviendra. Tout ça, c'est le futur. Quand les montagnes chancelleront. Si je mets le futur à ce temps, à ce verbe, cela implique que ça va arriver. Cela implique que ces choses vont se passer. Esaïe 54, 10 n'est pas dans cette logique-là. Car son temps n'est pas au futur, mais il est au conditionnel. Et implique seulement l'hypothèse que cela peut arriver. Et certaines versions que vous avez peut-être sous les yeux, comme Second 21, comme Summer, voire la Français courant, disent la même chose. Même si les montagnes devaient s'éloigner, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les montagnes venaient à changer de place. Donc ça montre vraiment cette dimension que Dieu ne veut absolument pas nous supprimer nos montagnes. Il ne veut absolument pas nous les faire ébranler, mais au cas où ça devait arriver, parce que cela peut arriver, Dieu désire prendre les devants et nous dire que son alliance, quoi qu'il va se passer, est une alliance qui est sérieuse, est une alliance qui est immuable. Je peux être secoué par des tremblements de terre qui vont bouleverser le paysage de ma vie. Mais Dieu affirme que si cela devait m'arriver, et cela va peut-être m'arriver, ou au contraire, si tout devait s'effondrer, eh bien son amour pour moi se manifeste par une alliance inébranlable, solide, ferme. Et si nous tournons quelques pages auparavant dans le livre des psaumes, au psaume 27, nous en avons une petite idée. Au verset 3, il nous est dit ceci, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. » Que nous veut nous dire ce verset ? Que ma sécurité et mon avenir peuvent être incertains, et même frôler la mort, et même toucher la mort. Sa sécurité me donne paix et confiance. Et si on veut toucher au plus profond, au plus intime de nous-mêmes, eh bien c'est le verset 10 de ce même psaume que nous lisons. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il se peut, et c'est malheureux, que des parents peuvent renier leurs enfants, peuvent les abandonner, peuvent les rejeter. Même parfois parce qu'on devient chrétien. Il y a comme ça des vies qui sont bouleversées. Mon père, quand je lui ai dit que je voulais être baptisé, j'étais catholique avant, me dit « Si tu renies ma religion, tu me renies. » Quand les montagnes s'ébranleraient. Eh bien là, c'était du présent. Et je comprenais que si je persévérais dans cette idée de me faire baptiser pour répondre à l'obéissance de Jésus, mon père me reniait. Et c'était un combat qui a duré un certain temps. Et puis, je me suis fait baptiser. Et mon père ne m'a pas renié. Il a même été fier quand je suis devenu pasteur et qu'elle me visitait en Belgique. Quelque part, il était aussi fier, mais c'était une épreuve pour nous quand les montagnes s'ébranleraient. L'amour que j'ai pour toi ne changerait pas. Eh bien, Dieu nous dit, mais même si ça devait se passer, même si vos parents, vos enfants, votre famille devaient vous renier, Dieu nous dit, pas moi, pas moi. Je ne te renierai jamais. Mon alliance pour toi est inébranlable. Quand j'ai perdu espoir, Dieu reste toujours mon espérance et mon roc. Jamais je t'abandonnerai, me dit Dieu. Quoi qu'il se passe dans ma vie, jamais Dieu va m'abandonner. C'est cette parole que nous lisons au verset 10 d'Ésaïe 54. Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et je me suis dit, mais si Dieu a de tels propos concernant Israël, alors que nous sommes toujours dans l'ancienne alliance, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, cette parole est digne d'être reçue, acceptée, intériorisée, je dirais même digérée en nous, que Dieu est un Dieu qui a vraiment fait alliance avec nous. Et puis alors que je préparais ce verset, je me disais, mais Seigneur, comment partager la suite ? Comment expliquer cette alliance ? Comment expliquer cette immuabilité de l'alliance, cette solidité de cette alliance ? Puis j'ai eu une image devant moi. Vous savez qu'en tant que théologien, on aime bien décortiquer les choses, sortir l'essence même et puis pouvoir la porter. Puis j'ai eu cette image d'un enfant qui apportait une fleur à sa maman. Parce que c'est son anniversaire, parce que c'est la journée de la femme, ou simplement parce qu'il l'aime, une fleur. Imaginez la maman qui prend cette fleur, qui prend un couteau, qui dit « Ah, mon chéri, c'est merveilleux !» qui commence à découper la fleur, à l'écraser, à la chiffonner pour sentir l'odeur. Il dit « Voilà, ça c'est le pistil, ça c'est les sépales. » L'enfant, il va pleurer. Il va dire « Mais t'as fait quoi avec mon cadeau, maman ?» Mais je suis en train de le disséquer pour voir vraiment le beau cadeau que tu m'as donné, etc. Et je pense que ce n'est pas du tout ce que l'enfant attendait. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais comment faire avec ceci ? Puis en lisant la suite de ce verset dans une autre version, j'aimerais vous le laisser comme une fleur. Une fleur, non pas à disséquer, mais à recevoir. Cette fleur qui est posée dans un verre ou dans un vase et qui fait la joie de sa maman. Cette fleur qui s'ouvre, qui se développe, qui embaume la maison et qui rappelle cette relation entre cet enfant et cette maman. Et j'aimerais vous relire quelques versets, quelques morceaux de ce verset en français courant. Et j'aimerais que vous le receviez comme une fleur, vraiment comme une fleur. Parfois, on cherche à disséquer, mais le temps, disait Dieu, c'est pas de disséquer, le temps, c'est de recevoir. Le temps, c'est de se faire plaisir, de laisser Dieu nous faire plaisir. Et voici ce que Dieu nous dit dans sa parole, en français courant, ce même verset 10. « L'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. » Dieu nous dit ce matin, pour chacun de nous, l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Dieu prend l'engagement. Dieu ne peut pas jurer par plus haut que lui. Il prend lui-même l'engagement en disant « Je vais assurer ton bonheur. » Quand bien même quelques montagnes devaient disparaître, quand bien même quelques collines devaient s'affaisser. Je prends l'engagement d'assurer ton bonheur. Et ceci, c'est une fleur que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est comme une bouffée d'oxygène, comme une réalité qui nous fait du bien aux yeux, qui nous fait du bien au cœur, qui nous fait du bien à l'âme. Dieu a décidé d'assurer mon bonheur. Dieu a décidé d'assurer votre bonheur. Et cet engagement est inébranlable. Alors, fort de cette certitude, je vous propose que nous puissions aller de l'avant et de persévérer dans le chemin qui est le nôtre. Et quand bien même les montagnes devaient s'écrouler dans notre vie, continuons à lui faire confiance. Vous savez, le plan de Dieu pour moi, pour ma vie, ce n'est pas de m'épanouir au milieu de mes montagnes. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien que Dieu me dise, voilà Jean-Jacques, mon plan pour toi, c'est que tu t'épanouisses au milieu de tes montagnes. De ta maison, de ta famille, de ton métier, puis que tu sois bien comme ça. Mais le plan de Dieu pour moi n'est pas de m'épanouir au milieu de mes montagnes. Le plan de Dieu pour moi, c'est de m'épanouir dans sa présence. Et Job l'a compris. C'est de recentrer nos vies, non pas sur nos montagnes, quand bien même on aimerait, mais de recentrer nos vies sur Dieu. Parce que ma vie, ce n'est pas mes montagnes. Ma vie, ce n'est pas ma maison. Ma vie, ce n'est pas ma famille. Ma vie, ce n'est pas mon métier. Ma vie, ce n'est pas mon église. Ma vie, c'est Christ. Et quand les montagnes devaient s'ébranler, si les collines devaient chanceler, si le paysage de ma vie devait être bouleversé, Dieu prend l'assurance d'assurer mon bonheur, quoi qu'il arrive, parce que la vie, ce ne sont pas mes montagnes, mais la vie, c'est Jésus. Amen.